Eh bien, bonsoir. Nous nous réjouissons de vous voir si nombreux pour célébrer cet événement qui est la sortie du livre de Philippe Charus, dont le titre est admirable, « Quand le lointain se fait proche, la musique une voix spirituelle ». Je pense qu'il n'est pas vraiment besoin de présenter le père Philippe Charus dans cette maison, mais je dirais malgré tout quelques mots de lui. Bon, tout le monde sait, je suppose, qu'il est responsable du département d'esthétique dans la faculté au Centre Sèvres, qu'il est d'autre part titulaire du grand orgue de Saint-Ignace. Autrement dit, qu'il allie à la fois des compétences philosophiques et musicales. Je suppose aussi que tout le monde ici sait qu'il a déjà publié avec Christophe Théobald deux livres consacrés à Jean-Sébastien Bach. Peut-être que vous n'êtes pas tous à savoir qu'il a écrit également sur Claude Debussy et un certain nombre d'autres articles que je ne vais pas mentionner ici. Alors pour cette soirée consacrée à son livre, nous avons la chance d'avoir d'une part Madame Violaine Anger qui parlera en premier et ensuite Patrick Goujon qui parlera en second. Et dans le dernier temps de cette soirée, Philippe Charus répondra lui-même à ce qui lui aura été dit, nous présentera son livre à sa manière, enfin peut-être en esquissant la toile de fond sur laquelle ce livre prend sens et a été composé. Et bien sûr, nous aurons un temps d'échange avec la salle. Alors je vous propose sans plus attendre de donner la parole à Madame Violaine Anger, que je vais présenter brièvement et j'espère ne pas faire d'erreur en la présentant. Donc, elle est actuellement maître de conférence à l'Université d'Évry et chargée de cours à l'École Polytechnique. D'après ce que j'ai vu, votre formation est très large et très complète, à la fois en lettres et en philosophie, et en musique, puisque vous avez obtenu les premiers prix des classes d'esthétique musicale et d'histoire de la musique, et obtenu le prix de recherche en musicologie au Conservatoire National Supérieur de Musique. Vous avez publié un livre sur Tchaïkovski et une importante anthologie, Le sens de la musique, en deux tomes, qui est une véritable histoire de la pensée sonore et de la pratique musicale du XVIIIe au XXe siècle. Je pense donc que vous avez lu d'une façon toute particulière le livre de Philippe Charus et je vous remercie par avance de nous donner votre lecture.
Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci aussi pour cette invitation. Je voudrais dire que je suis extrêmement touchée de la confiance que Philippe me témoigne en me demandant de réagir à son livre. Et je voudrais commencer d'abord par dire mon émotion, tout simplement, parce que ce genre de livre est pour moi rare, parce que le livre de Philippe Charus est une somme, mais ce n'est pas une somme de savoir, en tout cas ce n'est pas seulement une somme de savoir, c'est la somme d'un savoir qui est digéré, qui est assimilé, qui est devenu voie de vie, avant d'être peut-être, et ça va être l'objet du débat, une voie spirituelle, et réussir à écrire un livre ainsi, un livre simple, dans lequel l'auteur dit l'essentiel de ce qui a constitué, de ce qui constitue sa vie, eh bien, ça n'est pas donné à tout le monde. Et lorsque ce genre de livre arrive, lorsqu'il survient, il suscite d'abord, je crois, le silence. Et je voudrais commencer par partager, ou par essayer de partager avec vous ce silence. Le dernier livre devant lequel j'ai éprouvé ce sentiment porte sur un sujet voisin, mais différent aussi. Ce sont les 5 méditations sur la beauté de François Cheng. Je ne sais pas si certains parmi vous le connaissent, qui me semble aussi constituer la somme d'une vie. Je pourrais en citer un ou deux autres, mais je serais bien en peine d'en citer beaucoup. Et de toute façon, j'en mettrai peu sur le même plan que ces deux-là. Donc, je voudrais d'abord commencer par me taire. Je voudrais dire que je suis saisie devant cette générosité qui livre d'abord un témoignage habité, avant d'être une posture intellectuelle ou argumentative. Je suis saisie par le parcours qui a permis d'aboutir à cela. Donc, je voudrais rappeler que les travaux de Philippe m'accompagnent depuis longtemps, m'ont beaucoup inspiré. J'ai assisté à certains de ses séminaires sur Bach, à certains cours au Centre Sèvres. Je voudrais dire également que c'est lui qui m'a permis d'entrer dans Augustin, dans Varèse, dans Webern, dans les problématiques qui nourrissent un rapport essentiel à la musique. Donc tout cela est fondamental pour moi. Mais en revanche, il me semble qu'avec ce livre-là, par rapport aux autres livres sur Bach, on passe à un autre niveau, à une autre dimension. Et c'est ce passage qui suscite le silence. Parce que ce livre n'est plus un cours, n'est plus un livre universitaire, il est pétri de tout cela, mais tout ce rapport au savoir est complètement dépassé. Et le savoir, ici, devient vie. La vérité démontrée, argumentée, érudite, étayée par toutes sortes de réflexions rationnelles, devient vérité, au sens d'une posture intérieure, d'un engagement personnel où les vrais sujets ne sont pas le savoir, mais sont la vie et la mort, tout simplement, très lourdement. Et donc c'est rare, c'est très rarissime que le savoir puisse devenir ainsi témoignage. Or, c'est, me semble-t-il, ce qui se passe dans ce livre. Et c'est d'autant plus émouvant que, au contraire du livre de François Cheng que j'évoquais à l'instant, le livre de Philippe n'est pas tout à fait écrit à la première personne du singulier. Il y a plusieurs livres qui sont parus récemment sur la musique et qui sont écrits justement à la première personne du singulier pour essayer de sortir de ce rapport à la musique en tant que savoir érudit. Et donc les auteurs dans ce livre prennent le risque de dire « je ». Je pense par exemple au livre d'Éric Emmanuel Schmitt, je pense au livre de Philippe Nemo, « Un chemin de musique » qui est paru tout à fait récemment. Je pense à des livres comme ceux de Jean-Yves Tadier, un peu plus anciennement, des livres comme ceux de Rémy Stricker. Donc dans tous ces ouvrages, les auteurs choisissent le « je » au risque justement d'une perte dans un moi que les mots n'arrivent pas à aider à dépasser. Or, ce n'est pas le cas de Philippe Charru. Philippe, lorsqu'il emploie le « je », l'utilise comme un pronom personnel sujet indéterminé. Donc, un pronom personnel qui pourra désigner la spécificité personnelle de chaque individu qui reprendra le pronom à son compte. Alors que, dans le même temps, ce livre est pétri d'expériences absolument personnelles, profondes, d'écoute de Bach, des Indiens d'Amazonie, de Debussy, de Mozart, de la musique japonaise. Donc, toute la vie personnelle et intime de Philippe est là, mais la référence biographique est exclue dans le style qu'adopte Philippe. Si j'ai bien lu le livre, mais il est possible que je l'ai mal lu et que quelque chose m'ait échappé, le « je » autobiographique n'arrive qu'une seule fois. À un moment où Philippe authentifie la reprise d'une anecdote sur le chant libérateur d'un juif face à la mort dans les camps. C'est passé un jour, dans les camps, une expérience tout à fait étonnante qu'un juif s'est mis à chanter et du coup a été libéré parce que le chant a saisi les nazis qui étaient autour de lui. Et là, Philippe dit « je » au moment où il raconte cette expérience. Et donc ce « je » autobiographique surgit au passage d'une page comme un témoin, comme en posture de celui qui rapporte même un témoignage, encore plus précisément. Donc il n'y a absolument rien de narcissique dans ce « je », mais une affirmation de la capacité pleine et entière d'un individu à être témoin d'une vérité. Donc le livre est écrit au présent, généralement à la troisième personne du singulier. Le livre ne constitue pas le personnage biographique de l'écoutant, à la différence de ceux qui disent « je » en parlant de musique, alors que dans ce livre, il ne s'agit que d'écoute. Donc les sujets, c'est par exemple, j'ai pris une page au hasard, la musique. Philippe Jacotet dit que « on peut vouloir », les sciences et les techniques, ne peut-on dire que, etc., nous. Donc il faudrait se lancer dans une étude stylistique très fine sur le groupe sujet dans la phrase nominale, la phrase de Philippe Charru. Mais au-delà de ça, si vous voulez, l'impression générale est que ce livre se déploie dans un entre-deux. Parce qu'il ne s'agit jamais de l'impersonnel de la vérité, au sens où certains musicologues l'emploient par rapport à la musique, ou même Debussy, ou d'autres, Marin Mersenne ou d'autres. Mais il ne s'agit jamais non plus de l'unicité d'une émotion que l'on souhaite raconter pour que d'autres y retrouvent éventuellement quelque chose d'analogue, peut-être dans leurs différences. Donc, il ne s'agit jamais de poser le lecteur face à une vérité qu'il ne peut pas partager, ni face à une individualité irréductible qui raconte une expérience unique, explicable mais pas partageable. Et donc, tout le livre construit au contraire une sorte de socle accueillant, à l'intérieur duquel la vérité d'ordre scientifique et démontrable, musicologique, comme celle de l'irréductibilité individuelle, peuvent se côtoyer, exister et s'enrichir, justement pour devenir expérience de vie. Et donc, le livre de Philippe Charru, dans son style même, est un socle qui suscite chez l'autre la question de son propre rapport à la vérité, à la vie, à la mort, et qu'il accueille par avance dans sa différence. J'ai ressenti très fortement le livre de Philippe Charru comme une interpellation. Or, ce mot est de lui pour parler d'autre chose et pour parler de la musique. Et donc, face à cela, on ne peut être que silencieux, parce que, au fond, c'est un tel appel accueillant à poursuivre à son tour la démarche que on est ébranlé et plein d'humilité face à ses propres insuffisances et face à ce chemin qui est ouvert et qu'on n'a pas encore, qu'on ne peut peut-être pas aller ou qu'on ne peut essayer simplement d'emprunter. Donc d'abord un silence. Un silence d'admiration devant ce livre qui existe et qui nous est donné, mais aussi un silence beaucoup plus profond, déstabilisé, parce que ce livre invite à une question radicale. Où en es-tu, toi? Où est-ce que j'en suis, moi? Et ce n'est pas une question facile. Donc voilà, face à cette provocation à exister là où je me tiens, et là, je cite les mots de Philippe parlant de l'expérience musicale, mais me semble-t-il, c'est une expérience qu'il invite à faire à son tour. Donc face à cette provocation à exister là où je me tiens, il faut avancer. Et donc, je vais simplement développer une question qui est ma question face à la musique, qui est là où j'en suis, et donc non pas autobiographique du tout, mais au sens où je ne peux pas dire autre chose que ce que je vais dire. Et donc, cette question pourrait commencer à se formuler d'une façon un peu lourde et simpliste, en disant, finalement, qu'est-ce que c'est que la musique, au fond, dans la perspective d'une expérience d'écoute musicale qui soit aussi une expérience spirituelle authentique, qui est le propos de Philippe. Donc, en fait, la question est, qu'est-ce que c'est qu'une expérience spirituelle? Et où se situerait finalement la limite entre une expérience spirituelle et une expérience spirituelle authentique face à la musique? Alors, le mouvement du livre de Philippe est d'une évidence rare, c'est-à-dire que si on accepte le début, on ne peut pas aller jusqu'au bout, on ne peut pas ne pas aller jusqu'au bout. Or, on ne peut pas ne pas accepter les premières pages, parce que dans les premières pages, Philippe montre avec une force tranquille, mais réelle force, que l'expérience musicale relève d'autre chose que ce que la musicologie peut en dire. Puisque justement la musicologie se définit comme une science humaine, c'est-à-dire comme une réflexion qui se déploie à partir de la mise entre parenthèses de toute ontologie. Donc on ne peut pas demander à la musique de réponse à ce qu'elle s'est auparavant refusée à traiter. Donc, comment ne pas accepter, au contraire, l'analyse que propose Philippe, l'analyse d'un rythme fondateur, un rythme qui n'est pas battu, métrique, mais qui est présence, orientée, dans un dépassement de l'expérience du chaos, un rythme qui est ouvert sur l'inconnu. Et comment ne pas accepter cette expérience que propose Philippe, cette analyse de l'ancrage de tout rythme dans un matériau, le son. Un matériau qui est à la fois neutre, extérieur, mais en même temps complètement irradiée par cet élan rythmique. Donc comment ne pas accepter l'analyse première de la musique comme celle du corps qui chante et danse le monde ? Je cite Philippe, celle du corps qui chante et danse le monde qui l'habite, très précisément. En quête d'une plénitude sans cesse à trouver entre le gouffre d'en haut et le gouffre d'en bas, je cite Philippe qui lui-même reprend les mots de Théodore de Banville. Et donc à partir de là, la notion de style telle que la propose Philippe prend toute sa dimension. Le style n'est pas du tout l'ensemble des recettes caractéristiques qui font que l'on peut reconnaître telle ou telle écriture musicale, mais c'est, je cite, une façon de se rendre attentif à la manière dont une œuvre se donne en sa réalité sensible. Et cette analyse du style devient puissante pour analyser justement l'expérience d'écoute à laquelle nous convient certaines œuvres. Et donc on peut comprendre comment l'écoute, à travers cette analyse et cette expérience du style, on peut comprendre comment l'écoute ouverte, attentive, peut justement ouvrir dans les cœurs un chemin inattendu, je cite Philippe, c'est-à-dire justement appeler à une expérience forte, profonde, expérience qui est constituée par l'aventure, toujours ouverte, sans cesse à rejouer, dans le discernement de la joie. Je cite toujours Philippe, la joie comme consentement à se laisser mesurer par un autre que soi. Et l'aventure de la musique, l'aventure rythmique de la musique serait profondément cette expérience ou un appel à cette expérience. Donc, et c'est là où, si on se laisse porter par cette analyse du rythme et de la musique à laquelle on n'a pas trop envie de, enfin, on ne voit pas comment résister. En revanche, la conclusion est que si on écoute convenablement la musique, alors on ne peut pas ne pas être chrétien. C'est d'ailleurs ce que je pense convenablement, ce que je pense profondément. Mais en revanche, non, c'est ce que je dis. Donc peut-être que j'ai mal lu et peut-être que c'est là que justement se situe la rectification. En tout cas, c'est ce que je pense profondément. Donc peut-être que je... Mais en revanche, il est évident que cette manière de définir la musique justement comme ce rythme s'intégrant, enfin, ce que je viens de rappeler brièvement, cette manière de définir la musique n'est pas universelle, même si elle est peut-être universalisable. Et donc, justement, ce qu'invite à faire le chemin ouvert de l'analyse de la diversité des styles que fait Philippe, comme justement autant d'expériences possibles de la plénitude. Et donc, ma question du départ sur qu'est-ce que c'est qu'une expérience spirituelle authentique, qu'est-ce que c'est que la musique comme expérience spirituelle, devient celle-ci dans cette analyse anthropologique de départ qui semble non seulement irréfutable mais en même temps porteuse, enrichissante. Où peut-on éventuellement comprendre la musique autrement ? Peut-on la comprendre autrement qu'ainsi ? Or, Philippe nous propose d'aller chercher dans les œuvres lui-même un début de réponse. Et j'irai notamment écouter les analyses d'une justesse, à mon avis, confondante qu'il propose de Wagner. Wagner a un style, nous rappelle-t-il, qui est fondé sur l'art de la transition. Or, Wagner est justement celui qui refuse, me semble-t-il, de toutes ses forces, l'expérience du rythme proposée au début. L'expérience du rythme comme oui à la vie, comme émergence d'un point origine, comme émergence d'un point origine lorsque l'abîme se creuse sous nos pas. Et Wagner est justement celui qui refuse le passage du chaos au cosmos. Celui pour qui, justement, chaos et cosmos, haut et bas, devraient pouvoir être la même chose. Celui pour qui l'infini ne devrait jamais entrer en équilibre avec le fini. Celui pour qui, dans Parsifal, la résurrection a lieu le vendredi saint. Et donc, en d'autres termes, est-ce que Wagner lui-même n'est pas cet écouteur avide qui entraîne dans une quête sans fin et sans repos, donc qui prête à la musique une promesse de plénitude qu'elle ne peut pas tenir en refusant justement cette expérience rythmique fondateur. Wagner est un écouteur qui cherche la joie, la Höchstlust de Isolde, mais il la cherche faussement, c'est-à-dire qu'il la cherche dans un engloutissement proche de la transe. Et il sait lui-même que la transe, Philippe a de grandes analyses de la transe en disant que justement la transe n'est pas dans le son, n'est pas dans la musique. Elle est dans le signe que la musique fait d'autres choses. Mais Wagner le sait, Wagner sait que la transe n'est pas dans la musique. En revanche, de toutes ses forces, il le refuse. De toutes ses forces, il essaye d'y échapper, il refuse cette voix, cette évidence, et il cherche justement éperdument à s'abîmer dans le son. Peut-être aussi comme le rêveur, celui des rêves partis que Philippe évoque à un moment. Et donc, à côté de Wagner, il y a certainement d'autres manières encore de refuser activement cette interpellation que peut-être la parole musicale et la dissolution rêvée par Wagner, primitive, de retour à un stade primitif, peut-elle alors être tout de même considérée comme une expérience spirituelle, même si elle est inauthentique, si elle conduit à la confusion, et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que la musique ? Et donc Wagner nous invite à un deuxième temps de réflexion, c'est-à-dire que si l'on accepte, et cela semble l'évidence, que la musique est corps qui danse et chante notre relation au monde, qu'en est-il dans ce cas de la relation qui, dans chaque style, existe entre les mots, les pas et les sons ? C'est-à-dire dans cet élan rythmique que définit la musique et les styles, il y a des mots, des pas, des sons qui sont reconstitués. Donc définir la musique comme un corps qui chante et danse implique la recherche, comme Philippe le montre tout au long de son texte, la recherche d'une joie, d'un accomplissement, d'un ouvert. Dans le, chaque style réinvente la relation, en revanche, entre parole, voix, écrit. Et le cas de Wagner, qui peut tout nommer, Isolde se lance dans des grandes considérations théologiques même, enfin en tout cas, je ne voudrais pas dire théologiques, mais en tout cas philosophiques. Le cas de Wagner qui peut tout nommer, parce que justement les mots ne sont qu'une superstructure dans son ensemble, et d'autres styles, Philippe aborde le cas de Schoenberg, enfin d'autres, est-ce que finalement chaque style n'est pas un questionnement radical du mystère de l'incarnation, puisque chaque style est une nouvelle manière de comprendre comment paroles, mots, chants et danse sont mis ensemble dans ce corps qui chante et danse. Et donc il est clair qu'il y a des styles qui préfèrent le verbe tel qu'en lui-même, le verbe lumière face aux ténèbres, le verbe fait chair. Et il y en a d'autres qui ne le cherchent pas, qui cherchent à le refuser. Donc, est-ce qu'un mantra bouddhique, est-ce qu'une récitation coranique, est-ce que le cri pharyngé accompagné de percussions de ces démons revenants quasi chamaniques que l'on trouve dans le théâtre No, est-ce que c'est de la musique ? Est-ce que ce sont autant de façons, alors que ce sont autant de façons de chercher à comprendre le mystère de l'homme, détaché du monde, représentant, sachant qu'il va mourir, donc capable de représenter tout cela avec des mots, des sons, des couleurs, des gestes. Donc ce sont autant de façons de représenter un rapport différent au verbe, avec autant de styles différents. Donc, comment comprendre la situation de chacun de ces styles ? Est-ce que ce sont des cas particuliers de notre corps qui chante et danse le monde, ou bien est-ce que ce sont autant d'autres de façon différente, irréductible peut-être à la notion de style, d'appréhender le fait même de marcher, de danser, de parler, de mourir. J'entends par là, est-ce que Wagner est l'écouteur qui refuse quelque part, le type même de l'écouteur qui refuse ce rythme, cette analyse anthropologique de la musique, ou l'est-il, ou jusqu'à quel point l'est-il? Et d'autre part, est-ce que la musique définie ainsi permet d'aborder tous les styles différents, ou est-ce qu'elle est un cas particulier de d'autres façons de voir ? Et donc je terminerai très brièvement dans ma question. Philippe rappelle, me semble-t-il d'une façon très forte, qu'il n'y a pas de mauvaise musique, qu'il n'y a pas d'esthétique particulière, je cite, qui soit meilleure qu'une autre, même si, je cite encore, toutes les musiques ne sont pas équivalentes au regard de l'itinéraire de conversion de l'oreille qui est esquissé dans ce livre. Et donc, sur cette question de la valeur, finalement, de la musique et du style, dont Philippe refuse, à juste titre, me semble-t-il, de proposer des critères il n'y en a pas. Ça ne peut être que justement celui de l'écoute de chacun. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, justement avec Augustin, qui s'intéresse à l'unité déployée dans le sensible qu'est la mélodie, est-ce qu'il ne faudrait pas insister sur la notion d'œuvre à l'intérieur ou accompagnant la notion de style? En d'autres termes, Wagner, même s'il rêve d'une dissolution du moi, d'une perte dans la musique et dans le monde, même s'il refuse à tout prix ce passage, cet élément rythmique fondateur, Wagner reste parfaitement conscient toujours de la dimension imaginaire de sa représentation, de ce qu'il propose. Il sait que les acteurs se relèveront à la fin, il sait qu'ils salueront, il sait que donc si à l'intérieur de son œuvre l'acceptation de la finitude est refusée, justement dans cet art de la transition infinie, et donc qu'elle induit un style de cette façon-là, en revanche, l'acceptation de la finitude est totalement présente au niveau de la construction d'une unité finie proposée justement à notre écoute discernante. Et donc, l'appréhension d'une œuvre qui est contemplée dans le déploiement gratuit de son unité, comme Augustin nous invite à le faire, est-ce que ça n'est pas aussi constitutif de l'expérience musicale? Nous savons que le son peut aider des rituels magiques, qu'il peut mener à la transe, qu'il peut mener à la danse sans fin, qu'il peut mener à des expériences spirituelles de dissolution, de sortie de soi, non pas au consentement à se laisser mesurer par un autre que soi ou par autre que soi. Et donc, est-ce que la notion d'œuvre n'est pas aussi absolument fondamentale, nécessaire dans l'appréhension de cette écoute discernante et apte du coup à cette écoute, apte à apprécier dans l'ouverture, l'acceptation difficile de l'autre, la valeur de ce qui lui est proposé à entendre. Et justement, le livre de Philippe nous invite à comprendre que tout peut être transformé en œuvre, depuis donc en unité autonome ayant milieu, début, milieu et fin, déployé dans le sensible. Depuis les chants d'Amazonie qui sont enregistrés et qui s'arrêtent sur un éclat de rire, jusqu'à l'enregistrement même du beat de la techno ou des percussions africaines apparemment sans fin, est-ce que finalement l'écoute ouverte ne peut pas s'imaginer sans la constitution de cette unité qu'est l'œuvre? Voilà, merci.
Un très grand merci pour ce bel hommage rendu au livre de Philippe, et je pense que chacun d'entre vous, vous aurez entendu la confidence faite au début. Bon, ce livre, vraiment une provocation à exister là où je me tiens et une invitation au silence. Je crois aussi que vous avez posé une question bien radicale à laquelle je pense Philippe s'efforcera de répondre tout à l'heure, mais là pour le coup, je le laisserai faire lui-même. Je voudrais maintenant donner la parole à Patrick Goujon, qui par certains côtés a bien des points communs avec Violaine Anger, même si vous n'avez pas tout à fait la même fonction et le même itinéraire aujourd'hui. Mais Patrick Goujon a aussi une formation en lettres. C'est aussi un très bon chanteur, même si je ne suis pas sûre que tu aies fait le conservatoire, mais néanmoins tu as une véritable formation musicale. Il est aujourd'hui maître de conférence dans la faculté de théologie du Centre Sèvres, conseiller à la revue Études pour les questions théologiques et religieuses. Et parmi ce qu'il a écrit, je retiendrai essentiellement son livre qui correspond à la publication de sa thèse et dont je rappelle le titre, Prendre part à l'intransmissible, la communication spirituelle dans la correspondance de Surin chez Jérôme Millon en 2008. Voilà, je te donne la parole.
Pour commencer, je voudrais à mon tour dire ma joie à parler de ce livre de Philippe Charrue. Joie qui est en même temps l'occasion de dire ma reconnaissance en présence de l'auteur, un auteur qui se risque à prendre la parole. Risque qui ne porte pas sur le contenu du livre, j'allais dire, car ni la musique ni la vie spirituelle ne manquent d'ouvrages savants, d'études ou d'essais. Et on voit même un certain nombre de livres qui tentent eux aussi, de répondre à la question que Philippe se pose, la musique est-elle une voie spirituelle ? Ce qui est moins commun, m'a-t-il semblé, c'est d'avoir trouvé un ton accordé, alors là j'ai un problème de ton, voilà. Un ton accordé à ces deux sujets qui supportent mal une parole qui serait trop descriptive ou saturée d'informations. Ni la musique, ni la spiritualité ne souffrent l'excès d'un savoir qui serait trop fier de lui. Et Philippe aime à citer ce propos de Stéphane Mallarmé, suggéré, voilà le rêve. Il m'a semblé cependant, Philippe, que ce livre, tu ne l'avais pas écrit en rêvant, pas plus que pour le lire, il ne faut rêvasser. La prose de Philippe suggère, mais parce qu'elle est concentrée, parce qu'elle résume, parce qu'elle restitue, et s'il y a de l'allusion, c'est sous le mode d'éclairer et surtout d'exiger une lecture lente. Rien de cela ne serait possible si Philippe n'avait pas, non pas rêvé, mais bien au contraire médité. Et médité en premier lieu devant les partitions. Médité à son clavier, comme à la tribune des orgues. Méditation surtout à l'écoute des maîtres. De ses maîtres, le maître d'orgue que fut Jean Langlais, pour lui, Claude Baliff, pour l'analyse. Écoute des maîtres, mais également l'écoute des sages et des saints. Et si le titre du livre suggère un déplacement, quand le lointain se fait proche, le lecteur ne cesse d'en lire des traces. Nous nous déplaçons d'Héraclite à Maldiné, de Guillaume de Machaut à Webern, de Jean de la Croix à Confucius. Et cela, non pas au titre d'une culture ou d'une érudition, et quoi qu'il y en ait de l'un et de l'autre dans ce livre, pour notre plus grande satisfaction, mais comme le fruit plutôt d'une fréquentation, d'un désir de sortir de soi-même. Et peut-être est-ce là le trait d'union qui s'esquisse entre les deux versants du livre, la musique et la vie spirituelle. Un dépaysement. Un dépaysement non pas subi, ni même recherché, ce qui serait le propre du curieux, mais consenti, accepté de se laisser dépayser, jusque dans le labeur et les peines du dépaysement. Or, il est curieux que cet éloge de l'écart, pour prendre cette fois-ci le mot de Philippe, soit au cœur d'un livre dont le propos est finalement le rapprochement. Rapprochement de la musique et de la vie spirituelle. Rapprochement que désigne ce titre un rien énigmatique quand le lointain se fait proche. J'en suis venu à me demander si finalement on ne s'approcherait pas du lointain que par écart, ce qu'il me semble, tu suggères dans ce livre. Comment tenir alors en même temps que toute approche, tout mouvement vers autrui, toute quête spirituelle, se vivrait alors comme une venue en soi ou vers soi de l'horizon, présence en soi de ce qui oriente. On aurait donc à la fois cet écart, hein, on s'approche par écart, et en même temps ce qui vient, c'est l'horizon. Le livre de Philippe m'a cependant posé une vraie difficulté pour en rendre compte ce soir. Comment en parler du point de vue de la théologie spirituelle, puisque c'est à ce titre que je suis invité. Alors j'aurais pu mettre le livre à distance et traiter des questions théologiques qu'il soulève, nombreuses, ou m'interroger sur la pertinence du rapprochement entre musique et spiritualité, selon les règles de la théologie fondamentale. J'aurais pu également reprendre comment, sur des points essentiels, Philippe use, plutôt qu'il ne définit, des termes de discernement, d'esprit, grand E, petit E, ce qu'il dit de Dieu, de Jésus, de la mort, etc. Mais vraiment, je n'en avais pas le cœur et je me serais vraiment fait l'effet d'un théologien avec des pieds d'éléphant. Non pas que le livre de Philippe soit un livre en porcelaine, bien au contraire, Mais le ton du livre n'est pas à l'exposer. Ce qui ne veut pas dire que Philippe n'est pas précis, bien au contraire. Alors j'ai plutôt choisi de conserver ce qui fait l'approche de l'ouvrage, une réciprocité, un dialogue, à la manière des entretiens. Les entretiens que j'ai la chance d'avoir avec Philippe, au gré des questions spirituelles, théologiques, musicales, littéraires, qui nous animent. Et si je viens ici, c'est peut-être moins en théologien, mais plutôt en interlocuteur qui a envie de poursuivre ce dialogue. Alors je m'arrêterai d'abord au ton, le ton choisi par Philippe. Et c'est ce ton même qui laisse entendre le jeu de l'esprit. Et c'est à partir de là que je poserai une question à Philippe sur ce qu'il appelle l'authenticité spirituelle, dans laquelle se reflète, comme dans un miroir, la quête de nos aventures humaines et l'écoute des œuvres musicales. Trouver le ton juste. Alors vous me direz, pour un musicien, trouver le bon ton, cela va de soi. Mais je dirais qu'on pourrait prendre aussi cette question du ton du côté de celle de l'attitude du maître. Le maître qui désire rendre possible une expérience pour celui à qui il s'adresse sans que ses obstacles ou sa propre personne fassent obstacle. Et on l'a entendu tout à l'heure à propos de l'usage du jeu. Premier reflet donc en miroir des voix spirituelles et de l'écoute musicale où s'esquisse finalement la question de la transmission, ou plutôt ici, me semble-t-il, de l'initiation. Le maître, et non pas celui qui cherche à persuader parce qu'il croit savoir, mais le maître qui s'est réjoui de ce qu'il a découvert, espère que d'autres pourront accéder à ce qui a été perçu. À cet effet, le maître doit baliser le chemin, mot-clé également du lexique spirituel. Et certains des lecteurs que nous sommes peuvent être peut-être peu familiers de l'analyse musicale et pourront se sentir peut-être déroutés aux premiers abords. Encore que, précisément, ils auront été préparés par la première partie de l'ouvrage, qui n'est absolument pas technique, mais bien au contraire existentielle. Car la musique est saisie, ou plutôt entendue, comme une manière d'être présent au monde. En reprenant à Merleau-Ponty la pensée du style, Philippe fait d'abord comprendre, je le cite, que la musique nous apprend que la communication avec le monde s'éprouve de façon sensible avant d'être pensée. Cela m'a rappelé ces lignes de Jean-Jacques Rousseau au premier livre des Confessions, « Je sentis avant de penser, c'est le sort commun de l'humanité, le sort commun de l'humanité. » Cette aventure commune de l'humanité dans laquelle la danse et le chant s'enracinent et qui sont traités dans le livre, comme on l'a dit déjà, non comme appartenant d'abord au système des beaux-arts, mais comme un fait anthropologique. Et en sortant la musique de la relation objectivante dans laquelle l'analyse musicologique peut toujours risquer de la maintenir, dans une relation entre un sujet qui connaît son objet, une œuvre, Philippe nous fait au contraire toucher les œuvres musicales dans leur présence. Mais sans pour autant que le livre instrumentalise, j'allais dire, les œuvres comme des preuves du discours. Au contraire, Philippe nous fait désirer nous mettre à l'écoute de ses œuvres pour que nous puissions découvrir chacun ce qu'il peut en entendre, ce que chacun peut en entendre. Et ce désir qui surgit demande au lecteur d'abord et ensuite à l'auditeur des œuvres une capacité à durer. Et également, j'allais dire, à renoncer et à faire silence. Il n'y a de véritable écoute que dans une épreuve, finalement. Philippe l'écrit, « L'épreuve de la résistance est inévitable, mais malheur au maître qui voudrait en épargner son disciple. » Écouter, c'est donc d'abord apprendre à faire silence, et telle est la condition de la rencontre. Et c'est bien cela, qu'il s'agisse de l'écoute musicale ou de la vie spirituelle, que le maître cherche à initier, à exercer son disciple. Et Philippe poursuit, « La résistance éprouvée face à la musique fait entrer dans une durée qui use les impatiences, qui calme la démangeaison d'entendre du nouveau. Elle introduit dans le silence intérieur et incline à se laisser conduire par le peu qui suffit vers le centre de soi, dépouillé de tout artifice. Vous aurez entendu au passage le ton de Philippe. Ce ton qui permet de conduire d'autres, non pas par son propre chemin, mais en lui donnant précisément de se laisser conduire, je reprends cette expression, par le peu qui suffit. Le maître est celui qui en dit peu, parce qu'il s'est laissé dessaisir par sa propre écoute, en se laissant saisir par ce qu'il a entendu, par ce qui lui a été révélé dans ce qu'il a entendu. Et dès lors, le maître ne peut pas être celui qui s'impose aux disciples, ni qui impose aux disciples ce qu'il a découvert. Mais il indique les conditions pour entrer à son tour dans l'aventure. Alors il me serait difficile de ne pas lire dans cette expression « dans le peu qui suffit », que je traduirai par « un rien senti qui change tout », l'attitude spirituelle par excellence, sans doute proche de l'apophatisme. Attitude de l'esprit qui traverse discrètement la réflexion de Philippe. Cette discrétion que l'on retrouve aussi bien dans les sagesses de l'Orient, auxquelles Philippe s'est rendu attentif, mais qui parcourt aussi la plus haute tradition théologique et spirituelle du christianisme. Qu'il nous suffise de songer à Basile de Césarée et à la réserve qu'il exigeait quand on parle de l'Esprit-Saint en théologien. Réserve à parler de l'Esprit-Saint que réfléchissait déjà et que nous donne à méditer l'entretien, la nuit, entre Nicodème et Jésus. Ce Jésus qui n'a rien écrit et qui nous enjoint d'apprendre à entendre. L'Esprit, tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais tu entends sa voix. Comment ne pas penser non plus à Ignace de Loyola, maître Ignace, comme il était appelé, auprès duquel Philippe a été initié par le biais de quelques spirituels, et je pense en particulier à Maurice Giuliani, fondateur de la revue Christus. Ignace ne préférait-il pas de loin en dire peu, pour que celui qui cherche Dieu se trouve en relation avec Dieu plutôt qu'avec son directeur. L'initiation porte alors plutôt à savoir user des sens intérieurs au contact de la parole entendue et goûter intérieurement afin d'en tirer profit. Et il me semble que c'est cette même attitude qui conduit Philippe, j'allais dire Ignace, dans cette écoute. L'écoute de l'esprit, l'esprit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. L'écoute de l'esprit nous met en lutte avec l'ignorance, notre ignorance, jusqu'à découvrir dans cette ignorance la chance d'entendre la voix de l'esprit, dans la pauvreté même du discernement qu'elle opère. Pauvreté de ne rien pouvoir saisir, tout en découvrant pouvoir vivre et se décider. Dire oui, celui que Philippe repère comme surgissement premier, le rythme, d'où peut jaillir le chant. Je me tiens debout et je chante, dans cette station du vainqueur de la mort, qui est la station du chanteur, ainsi que Bach le fait entendre dans son motet « Jesu meine Freude ». Jean de la Croix, qui guide également les pas de Philippe, avait su appeler ce peu qui suffit le je ne sais quoi de l'expérience spirituelle, si ténu et si fort, ou cet appui sans appui. Mais la question revient, vers où ce peu nous conduit-il? Philippe en vient, toujours avec ce ton de l'entretien spirituel, à énoncer la conviction la plus ferme au fil des chapitres de la seconde partie intitulée « La quête spirituelle au regard des styles ». Elle touche, me semble-t-il, à l'infini et à la relation que l'homme désire ou craint d'entretenir avec lui, et dont l'homme entrevoit la jouissance à travers ce qu'il désire, comme Tristan qui désire Iseux, ou Péléas Mélisande, ou le croyant désirant son Dieu. Un mot vient et s'impose à la lecture dans cette deuxième partie, celui de mesure. Non pas la mesure qui arrête, qui borne, mais la mesure qui seule permet au mouvement de ne pas se perdre, mais de s'épanouir. Mesure dont la clôture ne cesse de s'étendre et dessine progressivement un espace qui ne cesse de s'élargir. La mesure, finalement, de l'espace infini de notre liberté, des mesures qui posent la question de notre discernement, question fondamentale, à entendre d'abord comme ce par quoi une vie s'oriente, trouve son orient, son point, son port, le discernement absolument pas comme une opération de tri moral. Mais vers où ce peu nous conduit-il ? Philippe invite très explicitement à consentir à se laisser mesurer par autre que soi. Violaine l'a déjà dit. Et c'est l'affirmation centrale de la troisième partie du livre. Non que cet autre se substitue à moi. Et dès lors, on pourrait comprendre qu'il faudrait fuir cet autre comme un rival toujours à éloigner et le rendre lointain. Se laisser mesurer par un autre, parce que seul un autre, au contraire, peut me révéler ma propre mesure, mon existence, qui ne peut être comparée à aucune autre. Mesure sans mesure, qui révèle la puissance du désir qui m'anime. Et si Violaine a été saisie par l'analyse de Wagner, moi aussi, je renverrai à celle de Don Juan, de Mozart. Le désir que rien ne peut borner, mais qui pour autant peut me livrer à l'indéfini, à l'illimité, l'indéterminé. Voilà le désir de Don Juan. L'infini, qui pourtant n'est pas dénombrable, qui pourtant n'a rien du catalogue, alors même que Leporello sait le suggérer à son maître, qui lui est impuissant à trouver la mesure de son désir. Pas plus que le désir véritable, authentique, celui qui fait vivre, ne s'épuise dans l'énumération, que cela soit celui de la conquête ou de la prise, l'infini du désir ne peut trouver son repos dans cette indétermination du foisonnement. Et c'est là que Jean-Sébastien Bach, j'allais dire, répond au désir malade de Don Juan. Le titre même de l'art de la fugue, réfléchissons à ce mot de fugue, nous fait voir le risque que court le baroque, auquel Bach s'est confronté et dont il triomphe pour notre plus grande joie. En effet, la fugue n'est pas la fuite. Et même au plus fort du déploiement des combinaisons mathématiques et harmoniques des motifs musicaux et qui donnent le vertige dans la musique de Bach, l'expansion, qui est cette figure du désir d'infini, ne peut s'exprimer, se chanter, que si elle est conjointe au mouvement contraire et réciproque de concentration, celui-là même du chant qui est proprement respiration. Autrement dit, le mouvement ne porte pas à se perdre dans des abîmes infinis dans lesquels il s'emporte. Et c'est le chapitre consacré à Debussy qui me semble être la réponse à Wagner. Ce Wagner qui se perd dans l'illusion d'un infini, hein, qui viendrait combler le désir dans un instant et un lieu, même si c'est celui de la mort. Au contraire, ce qui comble le désir ne peut s'arrêter sans pour autant que le désir se perde en un mouvement perpétuel et répétitif. Comment ne pas penser à ce mouvement de l'expérience spirituelle tel que Grégoire de Nyssa l'a exprimé dans son itinéraire, hein, qui, je le rappelle dans cette phrase du commentaire des Cantiques, va de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. Alors, à parler de musique, Philippe, vous vous en doutez, ne succombe pas pour autant au charme de la musique et ne cède pas à ce qui pourrait n'être que divertissement, précisément sous le mode de la fuite, ou abandon à l'infini, dans le rêve de la fusion de l'homme avec la plénitude, de type wagnérienne. C'est ici qu'une voix, V-O-I-E, se dessine, ou se fait entendre la voix, X, à laquelle Philippe résonne et qu'il médite. Et cette voix, elle vient directement du livre de l'Apocalypse. Livre médité avec ses compagnons de route, Christophe Théobald et Édouard Pousset. Ce livre, à l'imaginaire visuel déroutant, raconte, comme un fait qui est déjà survenu, mais comme une promesse de ce qui peut survenir encore, le livre de l'Apocalypse raconte et annonce, donc en même temps, la victoire sur les forces du mal pour celles et ceux qui ont appris à laisser accorder leur oreille aux principes de vie qui les animent intérieurement. L'Apocalypse raconterait au fond où serait l'itinéraire d'initiation au discernement par l'exercice de l'écoute. Discernement dont la fonction est d'abord et essentiellement de permettre de vivre, alors même que ma vie, toute vie, est menacé par le mal, les forces de mort qui parcourent le monde et son histoire, tout autant que celles qui me traversent. Dès lors, l'enjeu du discernement pour Philippe est de savoir repérer ce qui m'anime, ce vers quoi je me tourne, je dirais ce qui m'oriente, au sens où l'orient est ce qui peut conduire la marche dans la nuit, ce pôle qui donne forme à une existence, mais aussi ce point rayonnant autour duquel une œuvre prend forme. Et je consonne beaucoup à ce que disait Violaine autour de la notion d'œuvre. Le discernement pourrait alors se comprendre comme une écoute radicale. J'allais dire une écoute à la vie, à la mort. Et du coup, le discernement n'est pas une espèce d'option réservée pour une élite spirituelle, mais bien plus fondamentalement la seule manière de vivre, plus ou moins explicite, plus ou moins consciente, mais une condition commune de l'humanité. Et le discernement deviendrait lui-même un fait anthropologique. Opérer un discernement entre ce qui ouvre et ce qui ferme. Une dynamique profonde qui ne peut cesser et ne peut s'arrêter sur un terme, ici ou là. D'où cette formule saisissante, à l'extrême, de Philippe, « La proximité de la mort est le principe de discernement ultime de l'homme. » Quand la mort s'approche, et est-ce que c'est le lointain dont il s'agit dans le titre, il y a, Philippe ne cesse de le rappeler, un sursaut de vie auquel il s'agit de consentir, choisir de vivre parce qu'a été reconnu dans la vie, senti, entendu, la présence de Dieu, de ce Dieu avec nous. Présence dont les Écritures, j'allais dire, n'ont pour seul objectif que de nous apprendre à reconnaître la voie de fin silence, dans l'ignorance de qui est Dieu, si ce n'était, et la restriction dit tout, c'est sans doute ce peu qui suffit, si ce Dieu n'était précisément ce Père d'un Fils et d'une multitude, libéré enfin, après la grande épreuve, de la crainte de la mort. Et c'est à cela, dans le livre de Philippe, que l'aventure musicale initierait, à écouter le silence, à passer par une conversion de nos sens, rendus capables de percevoir ce qui anime intérieurement nos existences. Mais si j'ai bien compris, le silence n'est pas le dernier mot de la musique ni de l'aventure spirituelle, qui l'une et l'autre sont invitées à s'épanouir en chant, en cantique nouveau, le cantique de celles et de ceux qui ont entendu l'appel à exister, lancé jusqu'à ce qui n'existe pas, ce chant venu du plus lointain et qui retentit dans le cœur de chacun. Alors je ne peux m'empêcher de me demander quelles sont les paroles de ce chant nouveau, s'il y en a, ou ce chant est-il que pure vocalité. Enfin, rien ne paraît plus étonnant à te lire, alors que ton enracinement dans la tradition chrétienne, ou plutôt, comme tu le dis, dans une existence christique est forte, je suis frappé de cet enracinement et en même temps de cette capacité d'ouverture à d'autres chemins tels qu'ils apparaissent dans tes analyses. En ce sens, quête spirituelle et aventure musicale s'interrogent en miroir, mais un miroir qui est celui dans lequel se reflète à découvert le visage du Christ. Visage du Christ défiguré par la croix, mais aussi transfiguré par la résurrection. Et cette ouverture à d'autres traditions spirituelles est le propre d'une approche sapientielle, me semble-t-il, qui est la tienne. Mais je me pose la question, et c'est sur cette question que je voudrais finir, je me pose la question de la nature de la référence au Christ, bien sûr présente dans ton livre, affiché même depuis le prélude de ton livre. Je me disais que certains lecteurs chrétiens pourraient s'irriter de le voir si effacé dans ce livre, mais que d'autres, non chrétiens, pourraient le soupçonner d'être par trop omniprésent. Alors je vais laisser ces lecteurs potentiels, dans lesquels je ne me retrouve pas, pour en revenir à ces lecteurs que Montaigne appelait le lecteur de bonne foi. Celui qui entrerait finalement en confiance dans ton parcours. Ce lecteur de bonne foi, non pas d'orthodoxie, mais de bonne confiance, quelle figure du Christ peut-il reconnaître alors que celle que tu lui en proposes est si discrète? Ou peut-être, pardon, pour le dire autrement, le Christ est présent à bien des pages dans ton livre et sa manière de vivre te donne les critères à partir desquels tu évalues l'authenticité des aventures spirituelles et musicales auxquelles tu t'arrêtes. Authenticité que tu n'as aucune peine à reconnaître dans d'autres traditions ou confessions religieuses ou aventures mystiques. Mais la figure de ce Christ, dont le mouvement est à l'effacement, à l'abaissement, pour venir victorieux auprès de Dieu, entraînant la multitude, m'est apparu comme esquissé en quelques traits, à peine appuyé, presque disséminé, mais c'est trop excessif de dire cela. Sans doute, parce que tu es toi-même devenu un proche de ce Christ, tu es capable de le reconnaître d'un trait, et c'est sans doute là ton style. Mais j'en suis venu à me demander, ou plutôt à désirer t'entendre, sur ce qui permettrait à d'autres aujourd'hui de reconnaître comme toi dans les œuvres que tu abordes le passage du ressuscité, dont nous sommes bien d'accord que nul n'est le propriétaire, mais dont certains sont simplement plus familiers. Autrement dit, et pour finir, quelle forme musicale, existentielle, spirituelle peut prendre selon toi aujourd'hui ce style évangélique, cette manière d'habiter le monde, et surtout, comment apprendre à le reconnaître? C'est là, simplement, la question d'un disciple à un ami.
Un très grand merci, Patrick, pour cet effort pour nous montrer la parenté entre musique et spiritualité. Je retiens par exemple cette belle formule, se laisser conduire par le peu qui suffit, qui je pense vous aura tous frappé, et c'est vrai qu'il s'agit bien de l'attitude spirituelle par excellence. Mais je retiens aussi la question finale, à laquelle je suppose Philippe ne va pas manquer de répondre.
Alors d'abord, un très grand merci à Violaine, Patrick. Je suis vraiment plein de reconnaissance pour la lecture que vous venez de faire de mon livre. À vrai dire, je n'osais espérer entendre ce que vous en avez dit. Et pourtant, c'est bien le type de livre que j'avais envie d'écrire. À savoir, un essai, c'est un essai. En fait, c'est pas universitaire, qui puisse aider le lecteur à chercher et trouver, au contact de la musique, sa propre voie spirituelle, et j'ajouterai, sans illusion. J'y reviendrai. Violaine Angers dit que ce livre n'est ni un cours, ni un livre universitaire, mais, je la cite, elle parle d'une posture intérieure, d'un engagement personnel, où les vrais sujets ne sont pas le savoir, mais la vie et la mort. Patrick parle d'initiation, au sens, je le cite, de rendre possible une expérience. Et il ajoute que ce livre ne traite pas des œuvres comme autant de preuves de son discours, il fait désirer au lecteur de se mettre à leur écoute pour que se découvre ce que chacun peut en entendre. Alors s'il en est bien ainsi dans ce livre, je me sens confirmé dans le fond, dans le type d'écriture que j'ai choisi, ou plutôt, je n'ai pas choisi, je crois qu'il est venu sans que je le cherche. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre pour vos questions. Je sens que vous êtes risqué vous-même. Et ces questions touchent en moi au cœur de ma propre aventure. Je vais essayer, bien sûr, sinon d'y répondre, parce que c'est des choses énormes. Mais dis-moi, j'aime bien le mot d'entretien. Alors on va poursuivre nos entretiens qui sont déjà anciens. Mais auparavant, j'aimerais dire un mot qui porte en amont de l'écriture de ce livre et qui laisse entrevoir ce qui, à mes yeux, en est ses sources vives. Alors je peux dire qu'en amont, il y a deux choses. Il y a une pratique musicale, et il y a l'appartenance à une tradition spirituelle spécifique, la tradition ignatienne. Je voudrais donc, voilà, dire quelques mots là-dessus. D'abord, une pratique musicale. Alors, il est vrai que j'ai commencé à faire de la musique à un âge où j'avais encore besoin de prendre les deux volumes du dictionnaire Larousse qui étaient sur les étagères pour les poser sur la chaise du piano pour atteindre tant bien que mal le clavier. Ça commençait comme cela. Je ne me posais pas les questions que je me pose dans ce livre à ce moment-là. J'essayais simplement de jouer les chansons que j'entendais chanter autour de moi. Mais par contre, je me souviens très bien d'un problème qui se posait à mon oreille, parce que j'avais inventé un petit accompagnement dont je me souviens encore très bien. Mais évidemment, il y avait des petits problèmes harmoniques qui se posaient. C'est-à-dire, mon oreille, je souffrais, mais je ne savais pas comment résoudre. Alors aujourd'hui, je crois que je pourrais résoudre assez facilement les problèmes harmoniques de cette époque-là. Mais je crois que la question de fond demeure la même. Car elle rebondit sans fin, je suppose, dans la vie de tout musicien. Et cette question, la voici. Comment faire entendre ce qu'on entend en soi? Voilà. Comment faire entendre ce qu'on entend en soi? Un musicien, compositeur ou instrumentiste. L'instrumentiste, il joue ce qu'il entend en lui. S'il n'entend rien, il faut qu'il change de métier. Les vrais maîtres, et j'ai eu la chance d'en avoir, ne savent pas bien sûr ce qu'on entend, puisque nous-mêmes on ne le sait pas très bien. Mais ils le respectent a priori. Et ils aident chacun à trouver comment faire entendre sa propre manière, sa propre voix, son style. On a demandé un jour à Richter pourquoi il jouait Beethoven si vite. Et il a eu ce mot extraordinaire. Il dit, parce que je le peux. Ça, c'est magnifique. Un grand maître du clavier. Pourquoi vous jouez si vite? Parce que je le peux, tout simplement. J'ai lu, peut-être comme beaucoup d'entre vous aussi, ce très beau livre de cette pianiste chinoise, Zhou Xiaomei. Elle dit quelque chose comme ça aussi. Elle dit, le bon tempo, c'est celui qu'on prend et on est à l'aise dedans. Voilà, on est à l'aise. Si je peux jouer vite, à l'aise, ben jouez vite. Sinon, vous jouez lentement. Voilà. On habite avec aisance. Voilà. Ce qui est en soi. Sur le chemin de la pratique musicale, on est sans cesse ramené, je dirais, à l'élémentaire. J'aime beaucoup ce mot. Contrairement à ce que parfois on entend dire, alors vous êtes... Ben non, plus ça va, plus on est là. L'élémentaire. C'est quoi l'élémentaire? C'est le corps. Bien sûr, pour un musicien, on passe assez... Quand on travaille parfois très longtemps, par jour, eh ben, c'est le corps quand même, hein, ça c'est sûr. Et vous savez bien que c'est la moindre chose, et je parle pas pour les chanteurs, c'est pire encore, un simple courant d'air, et ça y est, la journée est fichue. Quoi. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Le corps, la bonne posture, la bonne position, il suffit parfois d'un rien du tout. Un bon prof vous dit, votre épaule, elle est comme ça. Ben, et vous voyez, tout change. Voilà, c'est le corps. Il n'y a pas à se faire beaucoup de considérations. La présence à soi. Le rapport à l'instrument. Écouter l'instrument. Voilà. S'écouter, c'est écouter l'instrument. Alors vous jouez, vous écoutez, vous ce qu'il y a à l'intérieur, vous écoutez l'instrument. Voilà. On entre dans un dialogue. Là. L'élaboration du matériau musical. Le sentiment rythmique, le sentir intérieur, les maîtres de clavecin et d'orgue du XVIIe siècle, faut jouer comme on le sent. Les notes inégales, comment vous faites, comme vous les sentez, avec goût, il disait. Mais par-dessus tout, peut-être quelques grandes attitudes paradoxales dans la pratique musicale, que je veux dire. L'exigence de la maîtrise, et celle du non-vouloir. Les deux. Grande maîtrise, et évidemment, il ne faut pas vouloir. Celui qui veut jouer profond, coule. C'est un très beau mot de Louis Jouvet, ça. Celui qui veut jouer profond, coule. Voilà. Alors si un jour vous êtes profond, ben vous ne le savez pas. Mais vous avez travaillé avant, bien sûr. le jeu de la liberté dans la contrainte, l'écoute de l'inépuisable de la musique dans les limites de l'œuvre. Le consentement s'est laissé déplacer par ce qui survient et qu'on n'avait pas prévu, en particulier dans l'improvisation. Une improvisation, comme chacun sait, tout est prêt. Il faut adapter le thème, disait Dupré. Mes enfants, quand vous arrivez pour le concours, votre improvisation est faite avant. Vous adaptez le thème. Voilà ce qu'il disait. Alors bon, c'est déjà pas mal de savoir adapter comme ça. Mais le plus intéressant, c'est quand quelque chose vient et qu'on n'a pas prévu, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En anglais, je dis un jour ceci, quand vous faites quelque chose qui vient, qui est pas, qui est dissonant, enfin qui vous plaît pas, ça peut heurter les oreilles, vous le répétez une seconde fois, vous le répétez une troisième fois, et comme ça les gens croiront que c'est voulu. Mais il faut avoir l'aplomb pour, dans le feu de l'action, le tout, tout. Voilà. Non, c'est, on s'est laissé surprendre, mais c'est ça aussi. Alors on a fait une improvisation, de fait. Croyez bien qu'il faut être très maître de son affaire pour en arriver là. Voilà, je pourrais continuer, mais c'est paradoxe. Voilà. Alors voilà, je ne vais pas m'arrêter sur ce point. La pratique musicale, c'est un savoir d'expérience qui dispense généreusement, la pratique musicale soutenue. J'ai dit placer aussi en amont de ces livres l'appartenance à une tradition spirituelle spécifique, la tradition ignatienne. Alors je voudrais faire entendre trois notes ignatiennes auxquelles je suis plus sensible, et qui là encore dispense un savoir d'expérience inépuisable. Alors je dis cela, évidemment, c'est pas sans lien avec ce livre, justement, même si c'est pas une reprise telle quelle. C'est en amont, c'est mon humus pour planter mes fleurs. À première note, je dirais que l'expérience spirituelle nous affecte. L'expérience spirituelle nous affecte. Elle retentit dans le corps et le cœur, au point d'atteindre et de toucher les dynamiques profondes qui nous animent et nous font vivre. La voix ignatienne est attentive à ce retentissement en soi de l'écoute de la parole de Dieu, à savoir le Verbe fait chair. Le Verbe fait chair. Elle croit, cette voix ignatienne, que dans ce retentissement s'opère peu à peu la libération du vrai désir du cœur. Patrick a insisté sur ce point. Non pas qu'est-ce que Dieu veut pour moi, parce qu'il veut rien, enfin disons, il veut pas ce que je crois, mais quel est le vouloir qui me constitue. C'est ça qu'il veut. Quel est le vouloir qui me constitue. Alors exhumer ce désir et ce vouloir à l'écoute du Verbe fait chair, c'est une aventure qui connaît des saisons différentes, souvent des combats et des nuits, où s'affrontent des mouvements opposés. C'est pourquoi, et c'est la seconde note ignatienne que je retiens, l'expérience spirituelle se discerne, un mot qu'on a déjà entendu ce soir. L'expérience spirituelle se discerne. La sagesse transmise par les maîtres spirituels depuis les premières générations des moines dans les déserts d'Égypte, permet d'apprendre à discerner les mouvements intérieurs opposés qui s'agitent en nous, c'est-à-dire d'apprendre à faire la différence. Faire la différence, c'est un mot aussi d'Ignace. Il s'étonna de cette différence. Faire la différence entre les mouvements qui conduisent vers la vie, ou plus de vie, ou au contraire ceux qui conduisent sur un chemin de mort. Grâce à ce travail patient de discernement, on découvre peu à peu que le désir véritable du cœur est sans figure propre, sans figure propre. Impossible à circonscrire dans un ici ou un là, impossible à identifier à un ceci ou à un cela. Le désir du cœur est toujours plus grand, autre que ce à quoi nous avons tendance de l'identifier. En réalité, il est sans figure, comme Dieu lui-même est sans figure. Mais s'il est sans figure, je dirais qu'il aspire à prendre figure, c'est-à-dire à venir au jour d'une forme d'existence, d'une manière d'habiter le monde qui est un style de vie, tout comme le Verbe de Dieu est lui-même habité par un désir d'incarnation. On connaît le mot de Jean, le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Ceci est une décision de Dieu, la seule sans doute. C'est ce qu'il veut, prendre chair et venir habiter parmi nous. Dans cette perspective, la quête spirituelle se déploie à l'opposé d'une recherche d'un ailleurs imaginaire ou d'un au-delà fantasmé. Elle va dans le sens d'une présence toujours plus attentive à l'ici et maintenant, tout simplement. Le regard s'ouvre alors et devine, dans l'objet le plus proche et le plus simple, une présence indicible qui se donne. Le bonheur d'être ici. C'est un titre d'un livre récent, un très beau livre de Michael Edwards, titre qu'il a emprunté à Paul Claudel. Le bonheur d'être ici. Jésus dans l'Évangile, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Il dit pas quoi d'ailleurs. Mais vous voyez, vous entendez. Quoi ? Discrétion. Alors ces deux notes ignatiennes, évidemment, on fait entendre une troisième. La troisième, je dirais, quel est le Dieu d'Ignace ? Quel est le Dieu d'Ignace ? On peut longtemps méditer, à mon avis, à ce sujet, cette admirable sentence dû à un jeune jésuite anonyme du XVIIe siècle et qui a été sauvé de l'oubli par Oederlin à la première page de son Hyperion. Voici cette sentence. Ne pas être enserré par le plus grand, être cependant contenu tout entier dans le plus petit, ceci est chose divine. Ne pas être enserré, enfermé par le plus grand, être cependant tout entier contenu dans le plus petit, ceci est chose divine. On sait que le baroque s'est nourri de ces dimensions paradoxales. Elles ont aussi nourri la contemplation d'Ignace. Karl Rahner, le théologien, rejoint, on peut dire, Ignace dans cette contemplation avec l'image du coquillage, une image, dit-on, qu'il aimait beaucoup. Le coquillage, donc, qui tient dans le creux de la main. Si vous le portez à l'oreille, vous entendez l'infinité de la mer. Alors cette image pour lui était lui permettait de comprendre quelque chose de la parole poétique, mais aussi le mystère du verbe incarné. La plénitude de la divinité, dit Paul, habite corporellement. La plénitude de la divinité habite corporellement. C'est dans Colossiens 2:9. Dans cet homme, Jésus de Nazareth, humble et caché dans l'immensité du cosmos et de l'histoire. Je suis sensible à un autre trait aussi du Dieu d'Ignace que l'on peut formuler ainsi. On trouve Dieu pour le chercher encore. On ne le cherche pas pour le trouver. On le trouve pour le chercher encore. Cette dynamique intérieure est, à mon avis, un ferment évangélique d'universalité. Il y a là en effet une dynamique d'expérience, ou mieux d'existence, qui fait crouler peu à peu, une à une, toutes les frontières et apprend à lâcher prise. Cette dynamique seule peut accorder au mouvement d'incarnation d'un Christ déjà là, mais toujours en venir. Mais qui pourra dire jusqu'où le Christ veut s'incarner ? Qui pourra le dire ? Enfin, je terminerai par là. Ignace invite à voir comment Dieu veut se communiquer lui-même à moi en tout et attend en retour que je me donne tout entier à lui en tout. Connaître Dieu, c'est se laisser introduire dans cette communication mutuelle en toute chose, puisque désormais il n'y a plus de temps ni de lieu réservé à cette communication. Cette réciprocité dans le don mutuel de soi, en toute chose, c'est ce que Ignace appelle l'amour. Voilà ce que je peux dire, être en amont de cet essai sur la musique, une voie spirituelle, une pratique musicale et l'appartenance à une tradition spirituelle spécifique, la tradition ignatienne. Voilà ce que je pouvais dire.
Un très grand merci.
Alors, est-ce que je réponds
ben à peut-être, question? C'est un petit peu ce que je pensais, peut-être.
Bon. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. J'ai envie de commencer par répondre à Patrick, parce que ça va bien s'articuler. J'espère. Et une première question que tu as posée, qui est intéressante, mais peut-être plus facile que les autres. Je commence par celle-là. À propos donc du silence. Le silence qui ne serait pas le dernier mot de l'aventure musicale, même si elle conduit à disposer l'oreille, je finis par là d'ailleurs le livre, à un repos intérieur, qui dispose justement à. Comme le silence ne serait sans doute pas non plus le dernier mot de l'aventure spirituelle. Ce serait, dis-tu, je te cite, le cantique nouveau, et tu poursuis, on ne peut s'empêcher de se demander quelles sont les paroles de ce chant, s'il y en a, ou si le chant est là, pure vocalité. Eh bien, il faut la lire, Apocalypse 5, 9, on nous donne les paroles. Je lis, il chantait un cantique nouveau, tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Mais on lit en 14.3, il chantait un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre animaux et les anciens, et nul ne pouvait apprendre ce cantique. Sinon, les 144 000 les rachetaient de la terre. Bon, on ne va pas entrer dans un travail sur l'Apocalypse, mais le cantique nouveau, il y a des paroles, mais il y a aussi, bon, pas, tout le monde ne peut pas le chanter. Alors, je pense quand même que dans la tradition liturgique et spirituelle, ce chant qui devient effectivement vocalisation pure, incompréhensible, c'est la jubilation. Et il y a le texte très très beau de Saint-Augustin, si je puis me permettre. Celui qui jubile, c'est dans le psaume, commentaire du psaume 99, 4, celui qui jubile ne prononce pas de paroles, mais il exprime sa joie par des sons inarticulés. Dans les transports de son allégresse, ce qui peut se comprendre ne lui suffit plus, mais il se laisse aller à une sorte de cri de bonheur sans mélange de paroles. Jubilation. Ah, alléluia. Bon, voilà, ça ne veut rien dire, ça veut dire tout ce que vous voulez. Je signale aussi, alors Bach quand même, un petit peu ce soir, que dans le Sanctus de la messe en si mineur de Bach, on a des passages de ce type où la jubilation est telle que les motifs entrelacés, entremêlés, développent un espace flamboyant, où le texte se perd en effet avec les sons de Gloria. On entend « oh, oh », on entend « oh, ah », enfin on entend un « brouhaha », quoi. Ce sont des strettes absolument savantes. C'est un tournement vertigineux, c'est une espèce de glossolalie, devant la gloire de Dieu. Alors ceci dit, je tiens cependant au silence des mots. Et je me rappelle, à la fin du traité de Jean de la Croix, « La vive flamme d'amour », il a quand même cette très belle expression après avoir parlé de ce que Dieu opère dans l'âme, il dit « Et si on le disait, on croirait qu'on le peut dire. » Donc je ne le dis pas, et fini, il y a encore une ligne, c'est terminé. « Si on le disait, on croirait qu'on le peut dire. » Je crois qu'il est très important de dire cela et de s'y tenir. La seconde question porte sur la nature de ma référence au Christ dans ce livre. Alors ça commence à devenir une question un peu plus difficile, mais intéressante. D'abord, je cite ce que tu dis. « Quête spirituelle et aventure musicale s'interroge en miroir dans le livre, mais ce miroir est celui dans lequel se reflète le visage du Christ, défiguré par la croix, puis transfiguré par la résurrection. » Alors je suis d'accord pour dire cela, à ceci près, que je ne parle pas de miroir. Miroir, ça a à voir avec la vue. Or moi, l'image que j'emploie, c'est le domaine de l'écoute. Voilà. J'ai intitulé la première partie du livre, Donc là, enfin, c'est musique et spiritualité. J'étais très ennuyé pendant des mois avec ce titre. Je me dis, c'est le « et » qui me gênait, évidemment. Musique et spiritualité. Vous avez la musique, la spiritualité. Alors, bon. Je me suis dit plusieurs fois, je ne vais pas le garder. Puis un jour, je me dis, je le garde, mais je mets un sous-titre. Le sous-titre, c'est « La grâce d'un accord à entendre ». J'avoue, j'étais content de mon affaire. « La grâce d'un accord à entendre ». Donc, pas, c'est pas le miroir, ça. Un accord, évidemment, entre musique et spiritualité. C'est de l'ordre d'entendre. Alors, on entend, on n'entend pas. Et comme je ne voulais absolument pas faire une démonstration au terme de laquelle tout le monde se dit, ah ben, ça y est, c'est clair, j'entends. Non, justement, pas, j'ai mis la grâce. La grâce, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est pas mon, c'est pas, ça vient pas de moi, quoi. Là. Alors, musique et spiritualité, ce livre, en définitive, voilà, on peut le lire, mais on peut, j'espère que ça pourra faire bouger quelque chose, mais ça peut ne pas faire bouger, je ne sais pas. On n'est pas seul engagé dans l'aventure quand on s'engage sur ces chemins-là. C'est une grâce d'un accord entente, c'est pas une démonstration au terme de laquelle vous êtes obligé de souscrire, non. Mais la question va plus loin. La figure du Christ dans ce livre est-elle si discrète et si disséminée que le lecteur aura peine, en définitive, à le reconnaître? Ou bien est-elle si omniprésente, sous le mode d'un principe de discernement de ce qui se joue dans l'aventure musicale et spirituelle, qu'elle peut aussi faire violence à d'autres lecteurs? Et tu précises en demandant ce qui permettrait à d'autres aujourd'hui de reconnaître dans les œuvres le passage du Christ ressuscité dont nul n'est propriétaire, mais dont certains sont plus familiers. Alors, en réfléchissant à cette question, j'ai repensé à la manière dont parle Jésus. On nous dit dans l'Évangile, Jésus parlait en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole. Et dans le livre, il y a quand même un certain nombre de pages sur la parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? C'est pas sans, évidemment, sans raison. Eh bien, la parabole, Jésus parlait en parabole du royaume de Dieu. Il dit, c'est comparable à... Mais la parabole, alors on vous parle du grain, on vous parle d'une femme qui a perdu sa monnaie, on vous parle de tas de choses, mais on vous parle jamais de Dieu hein, dans une parabole. Une parabole ne vous parle pas de Dieu directement. C'est une histoire qui est ordonnée à un voir et à un entendre. Voir et entendre quoi? Mais ce qui est ici et maintenant. Alors dans l'Évangile, ce qui est ici et maintenant, ben, c'est Jésus qui parle. Alors, ou bien vous croyez que ce qu'il dit vaut le coup d'être écouté, vous restez et vous laissez la parabole descendre en vous et réveiller des harmoniques ignorées, ou bien vous partez. Voilà. Et Jésus a ces mots extraordinaires quand même sur les paraboles. Pourquoi il raconte des paraboles? Il dit pour que ceux qui entendent entendent encore plus et ceux qui n'entendent pas entendent encore moins. Ah ben ça, c'est un bon professeur au moins. On enfonce les derniers de la classe et on exalte les premiers. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je trouve que c'est une magnifique pédagogie. C'est la pédagogie qui vous amène à vous remettre à votre liberté dans l'accueil ou le non-accueil de la parole. Voilà. Alors si vous accueillez la parole, que vous la laissez descendre en vous, des harmoniques vont sonner. Qu'est-ce qui sonne? Bien, ce qui est déjà là en vous et que vous ne saviez pas. Ce que dans l'Écriture, Jésus lui-même le dit à propos des paraboles, « Je leur parlerai en paraboles et j'annoncerai les choses cachées depuis la fondation du monde. » Ça, c'est une chose qui reste un ouvert pour moi. Je ne sais pas trop, mais je crois bien qu'il y a quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont là et qui attendent d'être révélées. Là, ça veut dire « autour et en moi ». Voilà. Alors la parabole, c'est cette petite histoire qui, si je commence à l'écouter, va faire entendre cela. Alors j'entendrai plus, bien sûr. Mais si je ne me risque pas dans l'accueil de cette parole, j'entendrai encore moins. Voilà l'aventure. Alors ma question, parce que j'ai une question maintenant, que je me suis posée, est-ce qu'en définitive, la musique n'appartient pas au genre parabolique? Parce qu'en définitive, la musique ne vous parle pas de Dieu, hein. On peut mettre des belles paroles, bien sûr, mais enfin, dans ce livre, je parle beaucoup de musique qui n'ont rien à voir avec des... J'ai pris l'art de la fugue, parce que pour Bach, évidemment, c'est trop facile, un bouquin sur la spiritualité, on prend les messes, les cantates, les chorales, tout ça, mais justement, j'ai pris l'art de la fugue, exprès, non, pas de... parce que j'aime bien l'art de la fugue. Et puis parce que je trouve que c'est un monument extraordinaire, quoi. Bon, j'essaie de dire des choses, mais j'ai justement pas pris une messe, quoi. Mais j'aime bien les messes de Bach, par ailleurs, mais c'est pas un problème. Voilà. Autrement dit, la musique, une petite musique de flûte, je sais pas quoi, Densité 21.5 de Varèse. Bon, ça vous parle de Dieu, ça? On dit la musique mène à Dieu, l'art mène à Dieu. C'est une expression qui m'a toujours semblé curieuse. Je crois qu'en bonne théologie, c'est Dieu qui mène à Dieu, non? Voilà, donc c'est pas, faut pas se casser la tête. Alors, que peut représenter la musique, justement? Sinon, alors peut-être cette manière d'inaugurer un rapport à soi, au monde, aux autres, voilà, qui dispose à l'ouvert, ou je ne sais quoi, qui survient. J'insiste beaucoup dans ce livre, je crois, sur ce qui survient, justement. Le rythme fondateur, c'est cela. Le rythme fondateur, c'est ce qui voilà, me permet d'être ici et là, maintenant, et d'habiter. C'est tout. Pas plus, mais c'est déjà pas mal. Alors, ce qui peut survenir, ça me dispose, je crois, la musique, à écouter quelque chose qui ne viendra pas de moi. Voilà. Il me semble qu'une une grosse question, dans le fond, c'est la question de l'altérité. Quand il s'agit de beaucoup de choses, mais de l'art en particulier. C'est très difficile. Alors, dernière remarque à ce sujet. Je crois qu'on a beaucoup de mal à passer d'une objectivation du Christ à une reconnaissance de sa présence donnée dans la relation avec ce qui n'est pas moi, justement. Passer d'une objectivation du Christ à une reconnaissance de sa présence donnée dans la relation avec ce qui n'est pas moi, autrui, mais aussi les événements qui surviennent, ce qui arrive. On veut toujours tenir avant de croire, savoir avant de se risquer. Or, c'est le contraire. Sans appui et pourtant appuyé, dit Jean de la Croix. Sans appui et pourtant appuyé. Ce passage du sans-appui au pourtant appuyé, c'est la vraie conversion du cœur, celle qui ouvre les yeux et les oreilles. C'est la naissance au style évangélique. Or, le musicien qui joue, croyez bien, il est sans appui et pourtant appuyé. C'est toujours un risque de jouer. Je me suis toujours demandé pourquoi vous jouez une pièce pas mal, quand même, on peut se dire. Ah, j'étais en forme, tout le monde applaudit. Et puis, vous la rejouez le lendemain. Franchement, voilà. Qu'est-ce qui s'est donc passé? On ne peut pas dire que le lendemain, vous avez moins de technique que la veille. C'est pas vrai. Bon, il s'est passé qu'il y a je ne sais quoi qui fait que. Et puis, il y a des jours où c'est tout à fait extraordinaire. Je me souviens, pour un des plus grands concerts, c'est l'Agnus Dei de la Messe en Si, au Folies de Nantes, l'année Bac. L'alto s'est mis à chanter. Hervin, qui dirigeait, n'a plus redirigé. Le violon et tout le monde était comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin, parce que ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Et elle-même, elle était étonnée, elle a chanté. Mais c'est sûr qu'on l'a reprise ça après, elle serait été moins bon. Ça ne se reprend pas, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'étais dit ce jour-là, on y est. Mais où est-ce qu'on y est quand on dit « J'y suis, mais où suis-je ?» Alors, si vous voulez savoir, vous lisez le livre. Voilà. Alors, la reconnaissance dont il s'agit, quand je dis reconnaissance d'une présence, eh bien, c'est celle qui ponctue tous les récits de la résurrection dans les évangiles. C'est-à-dire, les disciples voient se réaliser sous leurs yeux ce que Jésus avait dit. Les choses se passent bien comme il l'avait dit. Eh bien, vivre en ressuscité aujourd'hui, eh bien, me semble-t-il, c'est faire la même expérience. C'est reconnaître que la parole de l'Évangile réalise bien sous mes yeux ce qu'elle, ou dans ma vie, ce qu'elle dit. C'est une reconnaissance. Il faut risquer, la parole est se risquer, pour faire l'expérience de sa fécondité. Mais on ne le sait pas tant qu'on ne sait pas risquer. Alors je dis quelque part dans le livre que c'est la même chose pour la musique. Quand Jésus a ce mot délicieux, quand il dit voilà, c'est comme les enfants, les gamins sur la place publique qui s'interpellent, on vous invite à danser, vous n'êtes pas venu, on vous invite à chanter, vous n'êtes pas venu, etc. Eh bien, c'est intéressant de voir que cette interpellation, cette image donc de gamin qui s'interpelle pour entrer dans le chant et la danse, c'est la même interpellation pour lui que celle qui nous adresse. Donc on écoute la parole de Dieu quand on écoute la musique. Pareil. Ou la musique quand on écoute la parole de Dieu, c'est pareil. Ça vous étonne peut-être que je dise cela, mais je le dis. Alors pour moi, la question christologique qui demeure, c'est celle qui se profile dans ce mot de l'Écriture que Jésus prononce justement dans le cadre de son discours parabolique. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors pour illustrer cela, je me disais, j'en parlerai si j'ai le temps, mais je le prends. Il y a le dernier choral de Leipzig, de Bach. C'est sur le Veni Creator. C'est une pièce qui fait peut-être 2 minutes, mais tout à fait extraordinaire. Donc, il y a le thème du Veni Creator qui est d'abord joué à la partie supérieure. Et puis ensuite, dans la seconde partie, on entend au pédalier. Dans la première partie, c'est une gigue. C'est donc une danse avec un décalage rythmique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. Et puis chaque fois, on retombe sur 1. Donc, il y a un décalage rythmique, une danse. Partie supérieure. Et ensuite, deuxième partie, en valeur longue et stable, avec la grosse basse, on entend le même thème, il est passé donc au fondement, et là, ce sont des arabesques, c'est des gammes qui montent et qui descendent avec aisance. C'est le chant. La danse, le chant, les deux sources de la musique, on sait ça depuis le début de l'humanité, danse et chant. Donc dans ce choral, Bach traite deux fois, je n'ai pas trouvé d'autres exemples dans toute son œuvre, ce même thème, en haut, en bas. Alors si vous allez voir le texte du choral de Luther, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, car ils sont déjà tiens. Voilà. Autrement dit, l'Esprit vient d'en haut et nous fait danser, mais en même temps, ce même Esprit est déjà là, au fondement de l'univers, des choses cachées depuis, cachées effectivement, à la fois entendues mais cachées, il fonde toutes choses depuis le commencement, et c'est le chant de la création qu'on entend là. Vous voyez? Déjà là, et pas encore. Mais qu'est-ce qui est là depuis la fondation du monde? Alors ma question, c'est pas une question, c'est une espèce de rumination. Est-ce qu'on peut pas, c'est ce que je pense ici ou là suggérer dans ce livre, dans le fond, c'est, est-ce que la musique, on ne va pas, si elle est justement vraie dans cette manière d'être au monde, est-ce qu'elle ne va pas jusqu'à nous faire entendre, sans le savoir d'ailleurs, et sans doute, heureusement, sans le savoir, quelque chose de ce qui est là, en attente d'être révélé. Est-ce que ce n'est pas la vocation d'un poète, d'un peintre, d'un musicien, de faire entendre ce qui est déjà là, depuis le commencement? Et donc, d'inaugurer par là un rapport juste à soi-même, aux autres, au monde. Violette. Alors, je vais répondre à des questions immenses. Si j'ai pas parfaitement répondu, nous en reparlerons.
Compte sur moi.
Alors, la première question, qu'est-ce qu'une expérience spirituelle et une expérience spirituelle authentique? D'ailleurs, c'est une question aussi que tu posais. Et tu dis, où se situerait la limite? Alors, je voudrais dire ceci quand même. Il me semble que dans ce livre, je ne cherche pas à donner une définition de l'expérience spirituelle, pas plus qu'une définition de la musique. C'est-à-dire, nulle part, il y a, voilà, la musique c'est. Non. Alors, bien sûr, chacune pourra trouver que telle ou telle expression pourrait rendre compte de la musique ou de l'expérience spirituelle. Ça, certainement. Mais quant à moi, je ne cherche pas à définir de façon normative une définition qui forcément servirait à mesurer ensuite ceci ou cela. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience spirituelle authentique? Ah ben, définition de l'expérience spirituelle, après on voir ce qu'elle est authentique. Évidemment. Bon, dit comme ça, c'est un peu trivial. Mais un peu violent peut-être, mais c'est pas possible. Aussi bien, je constate que dans toutes les grandes traditions spirituelles et religieuses de l'humanité, on met toujours en garde celui ou celle qui veut se lancer dans une quête spirituelle tout seul. C'est pas uniquement la tradition chrétienne, comme vous le savez tous et toutes ici. Il y aurait pour lui de grands risques d'illusion, pour ne pas dire plus. Alors il lui est demandé de rencontrer quelqu'un à qui il parle et qui l'écoute. Alors c'est un sage, c'est un maître, c'est Abba Antoine, comme on disait dans le désert. Voilà. C'est un personnage qui ne fait pas que donner des conseils pour avancer. Il confirme ou non ce que lui dit son visiteur. Voilà. Alors au nom de quoi? Eh bien, pas à l'aune d'une définition, mais il essaye d'inscrire, je crois, dans une tradition dont il est reconnu témoin vivant et authentique par la communauté, d'inscrire dans une tradition l'expérience singulière de chacun. Voilà. Ce que tu me dis, j'entends, d'abord ça sonne en moi, et puis je l'ai entendu chez d'autres, etc. Voilà. On est confirmé par l'intégration à un corps vivant. Ce qu'on vit ou cherche au plan spirituel, donc, vient de plus loin que soi et conduit plus loin que soi. C'est au moins une première chose à dire, ça. Cela vient de plus loin que moi. Donc, comment le signifier, sinon en allant en parler? Celui qui ne parle pas se prend pour origine. C'est la pire des choses. Consentir à cela, c'est déjà opérer une sortie de soi qui, comme telle, est très spirituelle. Alors, si on ne juge pas une expérience spirituelle à partir de normes ou de définitions, on la discerne, par contre. On la discerne. En fonction des fruits qu'elle porte. Vie ou mort, ouverture, fermeture, joie, tristesse, ou encore, est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on trouve ce qu'on cherche? C'est la question, semble-t-il, que les premiers jésuites posaient aux retraitants qui venaient. Aujourd'hui, les gens vont voir l'accompagnateur, comme on dit. À l'époque, c'était l'accompagnateur qui passait, frappait à la porte. Il dit, vous trouvez ce que vous cherchez? Oui, ben ça va, on s'en allait. Vous trouvez pas? Ah, on entre. Pourquoi vous trouvez pas? Comment vous y prenez? Voilà. Ça, c'est ça. Voilà. Dans l'Apocalypse, il y a un mot qui revient 7 fois. C'est le mot heureux. Et Christophe Théobald m'a dit un jour, si Dieu n'a qu'un mot à dire, c'est celui-là, heureux. Et on le dira tant qu'il y aura des gens malheureux. Voilà. Alors en tout cela, il n'y a rien de normatif, mais il y a des attitudes existentielles, des manières de vivre, et d'éprouver la relation à soi, au monde, aux autres. On pourrait simplement aussi se demander, peut-on vraiment devenir musicien tout seul? Et si on a eu la chance d'avoir un maître, peut-on dire ce que vraiment il nous a transmis? Je suis incapable de dire ce que l'anglais m'a transmis. Et tous les gens, tous ses élèves diraient la même chose. Il nous enseignait, on ne sait pas comment. On sait qu'à la fin de l'année, on jouait mieux qu'au début, c'est tout. Mais comment? Très curieux. Alors, les questions autour de Wagner. On arrive au morceau de bravoure. C'est difficile, mais c'est passionnant. Alors bien sûr, sa musique lui-même ne semble pas s'inscrire dans les orientations de fond que je dessine dans ce livre. Peut-elle être considérée cependant comme une autre manière de concevoir une expérience spirituelle, même si elle fait ici question, c'est ça une des questions. Alors le chapitre sur Wagner, qui m'a demandé beaucoup de sueur, mais je ne regrette pas. Ça se termine sur un choix. Je peux lire d'ailleurs. Ça se termine sur un choix. Voilà. Arrivé sur ce seuil, bon, je ne dis pas lequel, mais peu importe, l'auditeur ne peut que s'abandonner entre les mains expertes de l'ensorceleur. L'ensorceleur, c'est un mot de Nietzsche à propos de Wagner. Et se laisser envelopper par elle dans les plis de la voile noire pour un voyage vers une nuit dont on ne revient plus, ou se retourner prestement et à grandes enjambées s'enfuir, où la nuit comme le jour illumine, sur les traces du verbe fait chair, qui vient d'un pas léger en quête d'un visage. Donc, Carrefour, c'est tout. On sait que Nietzsche s'est trouvé à ce carrefour, et il est parti. Ce n'est pas un jugement porté sur sa musique. Tout le monde admet bien volontiers que Wagner est un grand maître de la musique, un grand génie de la musique. On ne va pas se questionner, ce n'est pas la question. Mais pour moi, la question à propos de Wagner, c'est le titre d'ailleurs que j'ai, le sous-titre, c'est une nuit dont on ne revient plus. C'est la question de la nuit et de la mort, effectivement. Tout chemin spirituel, c'est-à-dire tout chemin d'existence, conduit un jour ou l'autre à rencontrer la nuit, la mort, ou des situations qui ressemblent à des morts. Elles sont à traverser, ces situations. Il faut apprendre à les traverser. Et les voies spirituelles sont là pour nous, la sagesse transmise est là pour nous apprendre, à comprendre ce qui se passe et à traverser. Purification nécessaire pour renaître. Il y a là un passage d'une déprise radicale. Mais le problème chez Wagner, c'est que cette nuit n'est pas à traverser, cette mort n'est pas à traverser, elle est à préférer à la sortie vers le jour et la vie. Je choisis nuit et mort. Le jour devient détestable, on chante ça pendant des demi-heures dans cet opéra. Voilà. C'est ça ma question. Alors, choisissez. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est tout. C'est tout. C'est pas la question de musique. C'est pas une question de qualité musicale. C'est génial, Tristan Iseut. C'est merveilleux, le début tout. Enfin, bon, l'accord Tristan, etc. On n'en finit pas. C'est une somme musicale. Mais alors après, voie spirituelle, je dis, qu'est-ce que vous cherchez? Mais sachez que vous vous engagez, si vous le prenez pour maître, en quelque pour voie, ça veut dire que c'est ça que vous cherchez. C'est tout. Alors moi, je sais que ce que je cherche. Donc, je suis passé chez Debussy. Mais c'est encore une fois, ce n'est pas un jugement sur la musique. Voilà. Mais c'est une légitimité stylistique. Et j'ai pris Wagner parce que c'est incontournable. Quand on fait des grands moments stylistiques, il y a une quête spirituelle chez lui, on peut dire, je crois, effectivement. Il cherche bien quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Voilà. Et est-ce qu'il est content? C'est ça la question. Est-ce qu'il est heureux? Troisième remarque. Définir la musique comme corps qui chante et danse implique la recherche d'une joie, d'un accomplissement, d'un ouvert, je te cite, dans le dépassement de la perte ou du vertige. Peut-on aller jusqu'à dire un dépassement de la mort? Je ne parle pas, je crois, alors moi je dis, je ne parle pas, je crois, de dépassement, justement. Si?
Alors, je sais pas.
Alors ça, je le regrette. Pour la prochaine édition, je m'intéresse.
Je sais pas, à regarder.
Oui, mais en tout cas, ce soir, oui. Ce soir, je préférerais parler de... C'est pas un dépassement, c'est une traversée. Comme l'heure avance, je vais simplement citer trois exemples à ce sujet-là, de la position de la musique face à la mort. Je vais prendre Mozart, Bartok et Bach. Mozart, dans La Flûte enchantée, Tamino et Pamina, les dernières épreuves du feu et de l'eau, c'est-à-dire en traverser la mort. Et à ce moment-là, Mozart écrit une petite musique simple à l'extrême, jouée à la flûte, justement, la timbale fait tonique dominante, petits accords de rien du tout, c'est une légèreté extrême, et il traverse la mort parce qu'il chante à ce moment-là, par la puissance de la musique, nous traversons sains et saufs les forces de la mort. Alors la puissance de la musique, vous voyez Berlioz faire de la musique, la puissance de la musique. Mais cette petite flûte ridicule, voilà, ben c'est avec ça qu'on traverse la mort. Alors pour moi, c'est inépuisable, cette affaire-là. La musique, c'est un des arts les plus fragiles, mais je pense que je vois qu'il y a des peintres dans cette maison et des poètes, peut-être qu'ils diraient eux-mêmes, pour un mot est fragile, une couleur est fragile. Bon. Mais la musique, c'est très fragile, parce que, bon, on enregistre aujourd'hui, mais normalement, la musique, elle est jouée une fois, puis c'est terminé, quoi. Or, c'est cette fragilité même qui peut-être peut avoir raison, dépasser, non, mais se situer par rapport à, c'est-à-dire ne pas entrer dans le jeu de la violence. Face à la violence, la tentation, c'est d'opposer une violence plus forte. Eh bien non, on vous oppose une petite flûte de rien du tout. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais ça passe. Voilà. Bartok. J'ai beaucoup regretté de ne pas faire un chapitre sur Bartok, mais il y en a beaucoup que j'ai regretté. Mais Bartok, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que vous le connaissez, sinon il faut l'acheter et puis vous l'écouterez. Musique pour percussion, Célesta, etc. Et puis, sonate pour piano percussion. Vous avez chez lui un premier mouvement qui est de l'ordre d'une gestation, une genèse. On fait souvent chromatique, c'est le chromatisme de Bartok, on commence dans le grave, quelque chose qui va s'engendrer peu à peu, ça monte. Voilà. Un cosmos en gestation. Et un second moment où c'est le nocturne. Et le troisième mouvement, en l'occurrence, de cette musique pour percussion, c'est magnifique. On s'enfonce dans la nuit. On s'enfonce dans la nuit. Et ça va très loin. Et puis, troisième étape, la danse. C'est le diatonisme qui apparaît. Troisième mouvement. Voilà. La danse. La lumière, l'éclat. Voilà. Alors ça me paraît juste au point de vue itinéraire spirituel. Genèse, traversée de la nuit, renaissance par certains côtés. Mais danse et lumière. Et on finit comme ça dans l'éclat, quoi. Et on sait que la vie de Bartok, ça a été quelque chose, sa propre existence. C'est une manière aussi de, musicalement, de signifier un type d'itinéraire spirituel qui me semble juste, qui est celui des grands mystiques. Quant à Bach, j'ai pensé, là, cet après-midi, dans la Passion selon Saint Jean, il y a quand même un moment étonnant, au moment où le Christ meurt sur la croix, Bach écrit une aria, c'est une danse. J'ai vu des commentaires de grands musicologues disant franchement, Bach ce jour-là, pas très inspiré. Face au Christ, on croit quand même une danse. Non, c'est pas possible. Alors c'est Bach qui a raison, évidemment. Parce que face au Christ mort, le chanteur l'interroge et lui dit, maintenant que tu es en croix, puis-je t'interroger ? Alors, le salut du monde entier est-il là? Est-ce que je suis sauvé de la mort? Alors, il conclut en disant, sans doute, tu ne peux plus me parler, mais tu baisses la tête et tu dis, ya. Oui. La parole silencieuse de la croix. Ça veut dire que face à la mort, une parole peut se prononcer, un corps peut se mettre à danser. Voilà. Alors c'est une manière aussi de vivre cette rencontre de la mort, non pas comme un mur sur lequel je me heurte et je me cogne, mais sur quelque chose qui est une promesse d'ouverture, d'un avenir. Et je trouverai confirmation de cela dans l'Actus Tragicus du même Jean-Sébastien Bach, où il y a le dialogue formidable entre le bon larron et Jésus. Et le texte que j'ai pas ici, mais qui nous parle de rapport au temps, le temps vécu sous le joug de la nécessité d'une fin inexorable, mais aussi un temps vécu dans l'attente de quelqu'un auquel je peux déjà m'adresser. Et on entend le « Oh oui, viens Seigneur Jésus ». Voilà. Le rythme fondateur dont effectivement je parle et j'y crois beaucoup, le rythme fondateur c'est cela, c'est de faire, alors oh, je reprends tout simplement des vers de Hölderlin et de Rilke aussi, hein. Le monde n'est plus l'en face contre lequel je bute, mais c'est le monde qui s'ouvre sans fin comme les fleurs qui s'ouvrent sans fin sans cesser d'être fleurs. Voilà. Ou bien le monde est objectivé, un en face sur lequel je me bute, ou au contraire il ouvre. Sur quoi? Ah, justement, c'est ce qu'on ne dira pas. Parce que si on le disait, on croirait qu'on le peut dire. Alors je termine, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais la notion d'œuvre, c'est tellement important. Je signe, bien sûr, la notion d'œuvre est absolument capitale, et quand tu le poses, enfin tu la fais jouer avec le son, alors bon, c'est sûr que j'en parle là-dessus, le son, certainement pas, le son, c'est la sensation. Or, dans la sensation, c'est l'absence de durée. Il n'y a pas de discernement sans durée. Or, l'œuvre avec, comme tu le dis, un début, un milieu, une fin, déploie une temporalité où, effectivement, un itinéraire peut se vivre et donc se discerner. Voilà. Mais les questions étaient tellement voilà, telles que il fallait bien.
Un immense... Merci, Philippe. Je pense qu'il suffit de vous entendre pour entendre précisément cet accord entre musique et spiritualité, de façon tout à fait convaincante et persuasive. Nous n'avons malheureusement plus que 5 minutes pour un éventuel débat, donc disons que simplement s'il y a 1 ou 2 questions, peut-être 3, et disons que vous choisirez comme ça.
Alors, je vais poser une question que tu fais son enfant.
Monsieur Sgar.
J'ai été surpris à certains de vos propos concernant finalement le savoir. Je voulais vous demander comment vous clarifiez ce problème. Parce que au départ, vous dites que c'est d'abord un sentir, mais si j'en crois les commentateurs, il y a derrière la deuxième phase qui serait. Une phase de savoir, et pour ne pas le dire, une phase d'analyse. Et pour quelqu'un qui participait un petit peu à l'aventure de l'analyse, et vous-même qui avez participé, je voulais savoir comment vous réintroduisez ce savoir dans une espèce peut-être de dialectique qui vient compléter le sentir que vous avez mené avec savoir.
Bien sûr qu'il y a un savoir. Mais il faut l'oublier. Quand on joue, on ne pense à rien. Enfin, on pense souvent on pense à ses doigts ou à ses pieds quand on est organiste. Hein. Le savoir, oui. Bien sûr, il y a un savoir, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a un grand carrefour quand même. Je commence par là. Hein. Une relation au monde. Alors, je ne dis pas que le savoir est mauvais. Bien sûr, il est nécessaire d'objectiver les choses. Sinon, bon, c'est absolument dans son ordre, c'est parfaitement légitime. Simplement, je dis, ce n'est pas le seul rapport au monde. Il y a un rapport qui se vit, alors Rousseau, cette merveilleuse phrase de Rousseau, il y a un rapport qui se vit sous le mode du sentir. Voilà. Ça commence comme ça. Alors, ce n'est pas pour contester le savoir, mais pour dire, ce n'est pas la seule manière de faire. Or, je crois pouvoir ajouter quand même que nous vivons dans une culture qui quand même nous a tellement privilégié ou privilégié tellement ce rapport de savoir, de maîtrise, de transformation, que ce rapport du sentir, et je pense aujourd'hui est vécu comme peut-être un manque douloureux, d'où peut-être le fait qu'on est si nombreux ce soir ici, mais que beaucoup de personnes aujourd'hui s'interrogent et lisent des textes de poésie, de mystique, etc. Parce qu'on se dit bien que la vie ne se réduit pas dans ce rapport-là, quoi. Rapport, oui, mais...
Est-ce qu'on pourrait dire que le rapport qui se noue au savoir pour le musicien, parce qu'effectivement il y a de l'analyse, l'interprète a intérêt quand même à savoir ce qu'il, dans quelle œuvre il entre, mais ce qui transforme ce savoir, c'est qu'il passe précisément par le corps et qu'il est oublié dans le corps. Tu cites souvent cette expérience du musicien qui est de reprendre une pièce qu'il a laissé dormir pendant 25 ans et de constater qu'il la sait encore. Mais pourtant, il savait pas qu'il la savait encore. Mais je pense que c'est ce passage d'un savoir analytique par le corps et qui, passant par le corps, s'oublie.
Oui, mais alors j'ajouterais ceci aussi. Il y a, à mon avis, deux attitudes. Il y a deux types d'analystes, en musique au moins. Vous avez, parce que les musiciens analysent depuis que les gens font de la musique, on analyse la musique des autres. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, vous êtes musicien et vous allez analyser les autres. Moi, quand je travaille, parfois, je vais écouter ou lire, ou je vais parfois écouter 30 secondes, voir comment il fait. Après, je fais comme j'ai envie. Mais c'est ce savoir, en fait, qui vient, qui est habité par une quête qui est la mienne, et qui est très mêlée, enfin, il y a beaucoup de choses. Et vous avez alors un autre type d'analyse, on va objectiver complètement la partition, on va tout analyser avec une méthode, etc. Mais pourquoi faire ? Ah, pour analyser. Alors, si quand l'analyse a pour but de l'analyse, c'est pas faire des trucs passionnants, mais enfin, moi, je ne peux plus, parce que c'est saturé. Et ça sert à quoi ? Et à qui ? Alors, moi, je suis musicien, j'analyse, comme d'autres amis musiciens, parce que je fais mon miel avec ça. Et à ce niveau-là, la méthode d'analyse est scientifique ? Non, elle n'est pas scientifique du tout. Je cherche ce que j'ai envie de trouver, et j'ai raison. Mais je ne le publie pas, ça.
Est-ce que c'est pas l'analyse qui va nous permettre de découvrir encore plus les
merveilles ? Oui. Oui. Non, c'est pas pour comprendre, c'est pour faire de la musique. Moi, j'analyse pour faire de la musique. Pas pour la comprendre, mais pour en faire. Voilà. Ou au mieux, pour éveiller l'écoute d'autres personnes. Là aussi, il y a une manière d'objectiver la musique qui en fait un objet de science et de savoir. Mais non. Pareil, en spiritualité, vous pouvez faire des bouquins, des sessions, des trucs de spiritualité. Mais écoutez, commencez donc à prier pendant une demi-heure, après vous verrez ce qui se passe. Non, mais c'est un peu ça. Après, on pourra lire les auteurs. Mais alors le corps, oui, effectivement, on se risque. On dit, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Mais allez-y, vous verrez bien.
Je viens de publier un article sur la musique de Chopin.
Oui. Oui, Michael Erdos. Oui.
Et je posais la question à une collaboratrice qui est musicienne, qui est pianiste aussi, en lui disant, mais finalement, qu'est-ce qui vous émerveille dans la musique de Chopin ? Donc, il s'agissait de mettre des mots sur quelque chose. Et finalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, du point de vue de celui qui écoute, voilà ce que je peux trouver qui m'émerveille. Du point de vue de celui qui interprète, le pianiste, voilà encore ce que je trouve. Et puis, le troisième point de vue, c'est du point de vue de l'analyste, voilà encore ce que je m'émerveille. Et son article, c'est la description de toute une série de petits détails qui nous permet de nous émerveiller encore plus.
Tout à fait. Émerveiller encore plus. Oui, c'est émerveiller. C'est plus connaître.
Voilà. Je pense qu'il est vraiment l'heure de terminer notre soirée, mais je voudrais que nous remercions de tout cœur tous nos intervenants, Philippe Charru bien sûr, mais aussi Violaine Anger et Patrick Goujon, qui nous ont permis d'entrer davantage dans la pensée et le bel ouvrage de Philippe. Et je suppose que tous vous aurez envie maintenant de lire ce beau livre de Philippe.